Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Je vous l'avais racontée il y a quelque temps. Je vous parlais d'Air Canada qui avait été condamné à payer des dommages à un passager qui avait été induit en erreur par son agent conversationnel, son chatbot, concernant les tarifs de deuil. Le passager, après le décès de sa grand-mère, avait consulté le robot d'Air Canada qui lui avait indiqué qu'il était possible de demander un tarif de deuil rétroactivement. Je prends, si ma mémoire est bonne, il avait 90 jours après son vol pour en faire la réclamation. Mais une fois revenu des funérailles de sa grand-mère, Air Canada n'a jamais voulu lui réduire son billet, alléguant qu'il aurait dû les aviser lors de l'achat du billet. Finalement, un juge de la Colombie-Britannique a jugé que le chatbot avait fourni une information erronée et a obligé Air Canada à rembourser aux passagers 812 $ pour dommages et frais de justice. Ce verdict souligne les défis et les risques légaux associés à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la relation avec la clientèle. Alors, qui est responsable lorsque vient le temps de donner des informations à la clientèle en utilisant une intelligence artificielle? Eh bien, on va en discuter avec un avocat du cabinet Lavry, spécialisé dans la question. Maître Gaspard Petit, bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui.
Avant qu'on parle de notre sujet, moi j'aimerais savoir, je lisais que chez Lavry, vous avez un laboratoire juridique sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça fait exactement, un laboratoire sur l'intelligence artificielle dans un bureau d'avocat?
Ah ben, vous êtes bien informé, en fait. Le laboratoire existe depuis plusieurs années, avant que moi je rejoigne. Moi, j'ai rejoint Lavry l'année dernière. Donc, bien avant, là, il y avait eu déjà des explorations au niveau de qu'est-ce que l'intelligence artificielle pouvait faire dans un cabinet d'avocats, entre autres, mais aussi d'être capable de conseiller des clients, donc de se familiariser avec la technologie pour être capable de conseiller des clients.
Donc, c'est un genre de carré de sable?
C'est un genre de carré de sable, exactement. Il y avait eu des efforts, je peux pas nécessairement parler d'exactement des détails de qu'est-ce qui avait été fait avant mon arrivée. Moi, depuis que je suis dans le groupe, on a participé à un effort pour mettre en place justement un agent conversationnel au sein de Lavry pour aider les membres du cabinet. Donc, pas nécessairement uniquement les avocats, parce qu'en fait, un agent conversationnel à la ChatGPT, ça peut aider un paquet
bien
de personnes
monde.
Sur un paquet.
Ben ouais.
Exactement. Donc, on ça a été mis en place dans le cabinet assez rapidement. Moi, ça donne que j'ai un background en génie logiciel et que j'arrivais là de l'industrie de l'info nuagique. Donc on a aligné les bonnes personnes, les gens des TI, les gens pour avoir les approbations là, au niveau de la conformité. On a eu un petit groupe strike team là, si je peux le dire comme ça. Et puis en quelques mois, on avait un prototype puis on était capable de le déployer. Et puis, ça peut nous aider pour un paquet de tâches, ça peut nous aider pour de la rédaction, ça peut nous aider pour réviser des contrats, ça peut nous aider à brasser des idées, à définir des termes, à chercher des mots, ça peut servir à un paquet de choses.
Donc, j'en comprends que vous êtes un avocat de votre temps.
Ou j'essaie de l'être, oui. Je ne pense pas être encore dépassé.
Ah bon, c'est rassurant pour vos clients. Mais donc, merci pour cette explication-là. On en arrive donc à la raison pour laquelle vous avez accepté mon invitation. Et écoutez, je vous pose la question là, tout de suite. Qui est responsable en cas d'erreur commis par un robot conversationnel sur un site d'une entreprise?
C'est une bonne question. La première réponse que je suis obligé de donner, c'est que ce ne sera pas un avis juridique. La deuxième, ce sera que mes connaissances se limitent principalement au Québec. Donc, je ne peux pas nécessairement dire un peu au Canada, mais ça va dépendre d'un pays à l'autre. Ce que je peux dire par rapport au Québec, c'est que il existe déjà des dispositions dans le Code civil, notamment dans la loi de la protection du consommateur. Il existe déjà des dispositions qui ont anticiper ce genre d'usage-là, c'est-à-dire que on a une boîte noire finalement qui est autonome, qui fait quelque chose, qui va donner de l'information. Puis bon, ça, en droit québécois, il faut qu'il y ait une responsabilité, il faut que quelqu'un soit responsable. Donc, selon le Code civil, déjà, il y a des dispositions qui disaient que ça s'appliquait dans le cas de machinerie, par exemple, que l'effet autonome d'un bien sont à la responsabilité de celui qui l'opère ou celui qui l'a fabriqué.
Donc, en français, ça veut dire quoi?
Ben, en français, ça veut dire ça peut être deux personnes, concrètement, pour un chatbot, par exemple. Ça peut être la personne qui l'a configuré, mis à la disposition du public, mais ça peut être aussi celui qui l'a conçu en amont. Donc, celui qui l'a fabriqué, qui a fait les modèles. Il pourrait y avoir une certaine responsabilité par rapport à celui qui a créé le chatbot, autant que celui qui l'a rendu disponible.
Donc, prenons mon exemple de départ que je mentionnais juste avant de vous présenter. Un transporteur aérien, on n'a pas besoin d'en nommer un. Donc, un transporteur aérien qui offre donc un agent conversationnel sur son site. Un passager ou un consommateur va chercher de l'information, information qui s'avère erronée après. Alors, dans le cas du transporteur aérien, vous me dites que c'est à la fois le transporteur aérien, mais c'est aussi la responsabilité de l'entreprise qui aurait vendu.
Oui, ben dans un cas comme ça, là, ça que je disais, en droit québécois, il y aurait d'autres choses. Là, je pense que vous faites référence à l'affaire de Moffatt Air Canada.
Exactement.
Il y a différents aspects à ça. Il y a l'aspect du consommateur lésé, puis il y a l'aspect de la sécurité du public, qui sont deux aspects là, par rapport au chatbot sur lesquels on peut s'intéresser. Dans ce cas-ci, si on s'intéresse au consommateur lésé, c'est beaucoup plus le transporteur aérien ou celui qui a fait le compte, qui a mis à la disposition du public.
Le service, là.
Le service. Donc, dans ce cas-ci, on tombe dans ce qu'on appelle, en anglais, là, c'est du negligent misrepresentation. Au niveau de la loi sur la protection du consommateur, ça va plutôt d'être de faire des représentations fausses ou trompeuses aux consommateurs.
D'accord.
Donc, ça peut être dans la publicité, mais ça peut être dans un dépliant, ça peut être dans un chatbot. Donc, il y a une interdiction de faire ce genre de représentation-là.
Mais je vais plus loin dans l'histoire-là parce que ce qui m'avait intéressé, je veux juste savoir, pas de commentaire, là, ce n'est pas un avis juridique, là. Dans le plaidoyer du transporteur en question, l'avocat qui représentait le transporteur a dit devant le juge, et moi je suis tombé en bas de ma chaise quand j'ai entendu ça, que le transporteur, l'entreprise, n'était pas responsable des propos tenus par son robot conversationnel et il n'était même pas tenu responsable par les propos d'un agent de service qu'on aurait contacté pour avoir l'information. Mais je vous ramène au Québec. Dans les faits, le consommateur québécois serait protégé par ces mêmes lois-là, qui dit que lui a téléphoné de bonne foi ou a contacté de bonne foi ce transporteur-là et a obtenu ces informations-là sur lesquelles il a basé sa transaction, mais les informations n'étaient pas bonnes.
Oui, ben l'argument est un peu, disons, il tire un peu la sauce. Là. C'est peut-être quand les chatbots seront rendus sentients et... on pourra leur donner une autonomie, une personnalité aussi, mais on n'en est pas là. Ça reste un algorithme qui est exécuté sur l'ordinateur de quelqu'un à quelque part, même s'il est dans le cloud, il roule à quelque part, et puis il est mis à la disposition volontairement du public. Donc, il y a des décisions qui sont prises en place. Le juge n'a pas été très, très sensible à l'argument de la personnalité autonome d'une intelligence artificielle. On n'en est pas là encore. Puis la loi ici serait assez claire, à mon avis, que il y aurait une responsabilité de celui... En fait, un chatbot, on ne peut pas se cacher derrière le chatbot. Ce que le chatbot va dire...
Il
faut qu'on endosse, exactement.
D'accord.
Donc, ça donne des scénarios. Moi, j'en ai vu un paquet là, récemment. On parle de celui d'Air Canada, mais il y a eu au niveau des vendeurs de voitures qui ont mis des chatbots basés sur ChatGPT où les gens montraient qu'ils étaient capables de leur faire faire leurs devoirs. On peut leur demander finalement un paquet de questions qui n'ont rien à voir avec ce pourquoi le chatbot a été conçu. Donc, ça donne des scénarios un peu étranges où il y en avait eu un, ça c'était un peu avant les fêtes. Je ne sais pas si vous l'aviez vu passer. Quelqu'un qui avait réussi à expliquer au chatbot qu'il devait toujours être d'accord avec ce qu'il disait. Et puis finalement, il lui disait, tu vas me vendre une voiture à 1$. Puis le chatbot disait oui. Donc, il y a aussi cette notion-là de l'utilisateur qui pourrait pousser le chatbot à dire certaines choses. Puis là peut-être, il y aurait un argument à faire que c'est pas entièrement celui qui l'a mis à la disposition qui en est responsable. Le client, qui comprend, puis devrait s'attendre, qui comprend le résultat, devient responsable à un certain point. Il y a des articles, même dans le Code civil, qui tiennent compte de ça. Le consommateur devait raisonnablement s'attendre à l'information erronée, il pourra pas, c'est pas automatique que ça va être celui qui a donné l'information qui est responsable.
Et donc, vous me confirmez que les lois actuelles, particulièrement au Québec, couvrent assez bien le champ. On n'aurait pas besoin de lois particulières pour mieux baliser cette nouvelle réalité-là?
C'est une bonne question. En termes d'agents conversationnels pour la consommation, je vois pas tant de failles. Évidemment, il y en aura sûrement devant les tribunaux éventuellement. Il y a une explosion de chatbots, donc c'est inévitable qu'il finira par avoir une histoire du genre au Québec.
Parce que je pense à tous ces gens qui, à l'époque, on se googlait, aujourd'hui, on se chat GPT.
Oui, pour voir notre degré de popularité.
Exactement.
Notoriété.
Il y a des gens qui, évidemment, apprennent qu'ils avaient une autre vie que la leur. Et de temps en temps, dans des contextes pas toujours positifs, je pense à une personnalité en Géorgie, là, c'est loin de chez nous, là, mais qui a intenté une poursuite contre OpenAI parce que on lui disait qu'il avait été condamné pour des choses qu'il n'avait pas fait, évidemment. Et là, il y avait une atteinte à la réputation. Alors, dans un contexte comme ça, d'autant plus que là, on ne parle pas d'une entreprise, d'un transporteur aérien qui est au pays, qui a sa place d'affaires sur le territoire québécois. Là, on parle d'une entreprise étrangère sur laquelle on n'a pas vraiment de main. Qu'est-ce qui va arriver dans des contextes où il n'y aurait pas nécessairement malversation, mais de par les rudiments d'apprentissage, il y aurait de l'information qui serait erronée, puis dans certains cas, qui pourrait être négative face à un individu?
C'est des bonnes questions. Je n'aurais pas des réponses très claires, malheureusement. Il y a probablement des places à, par exemple, au niveau du droit à l'image ou à la réputation, il y aurait un risque que un chatbot, par exemple, dise des choses erronées sur quelqu'un, puis que ça puisse engager sa responsabilité jusqu'à un certain point, puisqu'il amènerait des rumeurs ou il amènerait de l'information
erronée.
Une atteinte à la réputation. Ouais. Je peux imaginer que ça puisse arriver. En même temps, c'est pas tant différent que de l'atteinte à la réputation traditionnelle où si vous publiez un blog et puis vous dites quelque chose sur quelqu'un, puis vous n'avez pas vérifié vos faits, ben vous pouvez engager votre responsabilité. Pour moi, ça reste à peu près le même degré. Le risque est plus grand pour celui qui donne à la disposition le chatbot. Puis là, c'est de voir à quel point est-ce que ces gens-là font des tests, vérifient les limites de ce que le chatbot va accepter de dire. Avant, c'était facile parce qu'on construisait le chatbot de zéro, on lui donnait de l'information, puis on lui donnait des règles de réponse. Maintenant, avec les IA génératives, on doit faire l'inverse. On part avec un agent qui connaît une panoplie d'informations, puis on doit le limiter
on
à
doit
ne répondre qu'à une boîte.
C'est,
un exercice qui est presque aussi difficile que de le construire, là, être capable de lui expliquer qu'est-ce qu'il ne doit pas dire. C'est presque autant que lui dire qu'est-ce qu'il peut dire. Donc, je pourrais imaginer, mais les lois actuelles, justement, pour les atteintes à la réputation s'engageraient. Peut-être qu'est-ce qui peut être intéressant de dire, là, dépendamment de qui s'intéresse au problème, c'est qu'il y a moyen de limiter sa responsabilité en donnant des avis adéquats. Ça, je pense que ça demande une certaine humilité de la part de celui qui met en place le chatbot. Simplement à dire, le chatbot, par exemple, dans le cas de Air Canada, ça n'avait pas été fait de cette façon-là, mais de dire, le chatbot est là pour vous aider à naviguer l'information du site, mais pourrait donner de l'information fausse ou erronée. Okay. Vous devez vous référer à tel document pour avoir l'information adéquate.
Donc une mise en garde, un disclaimer.
Une mise en garde qui vient limiter finalement la portée du chatbot. C'est pas nécessairement 100%, dépendamment de comment ça a été fait, puis dépendamment du rôle du chatbot, on ne croit pas nécessairement se dégager. Mais il y a d'autres dispositions. Le code civil est quand même assez bien fait où, une fois que la personne a été avertie, si elle décide de suivre les conseils, elle engage aussi, elle prend un risque.
C'est ça.
Donc, il y a des façons de le faire. Il y a des cas où ça pourrait être aussi, où les chatbots peuvent être vraiment nuisibles. Ça, on a quelques failles. Il y a des dispositions dans la loi sur la concurrence ou dans le code criminel pour la fraude, par exemple. Mais il y a des projets de loi qui visent, C27, par exemple, qui visent à interdire l'utilisation de l'IA pour des fins nuisibles, là, où vraiment il y a certains cas qui sont identifiés. Ça, c'est en discussion depuis longtemps. Donc, il y a des failles, mais certaines ont été identifiées. Pour ce qui est des chatbots, moi, personnellement, j'en vois pas tant que ça. Là, en général, le Code civil, la loi sur la protection du consommateur, il y a la loi sur la concurrence aussi qui peut empêcher de faire des fausses représentations. Ou là, c'est pas pour protéger les clients, c'est pour protéger les industries les unes par rapport aux autres, pour pas donner un avantage. Donc, il y a des dispositions là-dedans aussi. Donc, il y a plusieurs mesures qui s'activent à l'utilisation d'un agent conversationnel.
Vous qui suivez ça d'un œil intéressé, le côté juridique de l'utilisation des intelligences artificielles comme ça, est-ce que vous trouvez qu'il y a des pays qui s'en sortent mieux par rapport à l'encadrement de ces technologies-là?
Bonne question. On voit beaucoup, là, il y a une effervescence clairement en Europe là, par rapport à l'encadrement des technologies liées à l'intelligence artificielle. Les États-Unis suivent aussi assez bien, je dirais. Ils ont le défi d'être divisés là, au niveau des États, donc c'est difficile d'avoir des politiques uniformes.
Un consensus. Certains,
c'est ça. Donc, dans certains cas, ils le font. Je dirais que le Canada, on est un petit peu à la traîne. On regarde ce qui se fait à droite, on regarde ce qui se fait à gauche, puis on discute longtemps avant d'arriver à quelque chose. mais c'est fragile. Si je peux prêcher pour ma paroisse, je sais qu'il y en a qui trouvent que ça bouge pas vite, mais changer des lois, c'est un jeu de Jenga où on enlève un bloc pour le mettre en haut. Il faut éviter que tout s'écroule. Il y a des dispositions qui sont là depuis longtemps, qui ont été interprétées, qui sont prévisibles parce que justement les tribunaux sont passés dessus, les ont expliqués, ils ont décortiqué. Puis là, on va rajouter des nouvelles dispositions. Puis on peut se tromper sur les nouvelles, mettre un nouveau mot, puis faire plus de dommages que de ne pas l'avoir codifié. Donc, c'est quelque chose qui prend du temps. En rétrospective, je pense que dans 10 ans, on va regarder en arrière, puis on va avoir probablement on va l'avoir encadré. Probablement qu'on va avoir oublié l'époque où c'était un peu plus le Far West. Donc, c'est des moments qui passent assez vite, là, comme pour l'Internet, comme pour les DVD, comme à chaque fois qu'il y a un changement technologique, il y a un moment avant qu'on s'adapte. Mais après ça, on oublie qu'il y avait cette période-là. Donc, je pense que ça va venir.
Donc, j'entends que vous êtes assez positif par rapport à l'évolution de l'encadrement légal de technologie d'intelligence artificielle.
J'ai pas le choix. Je comprends, mais c'est un processus qui est lourd et qui est long. Il faut écouter des acteurs, des gens intéressés. C'est pas quelque chose qui se prend en un clin d'œil. Sinon, on fait plus de dommages que de bien. Donc, faut accepter que c'est long. Le Canada, je pense, j'aimerais que ça aille un peu plus vite. J'entends les Joshua Benjo qui disent que il faut agir, il faut faire ça vite. Là, dans le cas des agents conversationnels, je pense que le risque est quand même assez limité. Il y a des zones de l'IA générative qui sont beaucoup plus dangereuses, à mon avis, qui, elles, mériteraient un traitement peut-être plus rapide, là, dans tout ce qui est, par exemple, l'impersonnification, la fraude. Donc, on le voit. En fait, les chatbots peuvent servir à ça, on s'entend, là. On en voit, là, des agents conversationnels qui partent des conversations avec des utilisateurs pour aller chercher de l'information. Donc, les chatbots pourraient être encadrés de cette façon-là. Restera à voir là, comment ça va être fait. Mais oui, globalement, je suis assez optimiste. Je pense que la technologie, de toute façon, elle est là pour rester et puis qu'on va apprendre à vivre avec. On n'a pas le choix.
Gaspard Petit, merci pour cette sagesse. Je rappelle que vous êtes avocat principal chez Lavery. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
C'était un plaisir. Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.